Chapitre 25. Isadora fit signe qu'elle désirait raconter son histoire, puis elle porta les mains à ses yeux comme si elle entendait sécher ses larmes. Se souvenant qu'elle ne pouvait plus pleurer, elle laissa retomber ses bras. « Je vivais dans une ville appelée Grandengart, un nom très ancien qui signifie « gardien du portail ». Située à la frontière sud du Nouveau Monde, cette cité est un avant-poste qui se dresse devant les immenses plaines du pays sauvage. L'ancien monde s'étend au-delà de ces plaines, encore plus au sud. De par sa position, Grandengart est depuis longtemps une plaque tournante commerciale. Certaines marchandises qui y arrivent sont parties d'endroits très reculés de l'ancien monde. En même temps, Grandengart est une sorte de place forte avancée et une étape obligée pour les visiteurs qui viennent de l'ancien monde, enfin, qui en venaient avant la guerre. Comme tu t'en doutes, les relations commerciales avec les divers peuples du pays sauvage ont toujours été bonnes. Presque tous les habitants, sur des milliers, gagnaient leur vie grâce au commerce, directement ou indirectement. Pour les habitants du pays sauvage, comme pour les marchands venus du cœur du Nouveau Monde, nous étions un lieu de rencontre neutre, idéal pour traiter des affaires. Avec ce transit incessant, c'était une cité joyeuse et vivante, où on rencontrait toutes sortes de cultures et de religions, et tu imagines les histoires fabuleuses que racontaient tous ces voyageurs. Nous avons perçu les premiers signes de la catastrophe un peu avant tout le monde. Presque d'un coup, les épices et les autres marchandises précieuses ont cessé d'arriver du sud. Chez moi, tout un chacun s'en est aussitôt inquiété. Pour commencer, il n'y eut pas d'autres indices. Puis, des flots de réfugiés ont déferlé chez nous, fuyant le nouvel ordre de fer instauré dans l'ancien monde. Quand le commerce s'interrompit, le bois de charpente venant du nord commença à s'empiler partout en attendant les chariots des acheteurs du sud. Mais ces caravanes n'arrivèrent jamais et les biens périssables commencèrent à pourrir. Face à ce désastre économique, les gens commencèrent à se demander comment ils allaient gagner leur vie. Ils s'inquiétèrent aussi de ce qui les attendait et de ce qui risquait d'arriver à leurs amis et connaissances de l'ancien monde. J'étais la magicienne chargée de veiller sur les habitants de Grandengart. Comme tu le sais, dans l'ancien monde, on voit la magie d'un mauvais œil. Du coup, les voyageurs m'évitaient autant que possible. Les citadins, en revanche, se fiaient à moi pour les protéger des menaces surnaturelles. Ils avaient beaucoup d'estime pour mon don et mes pouvoirs. À leurs yeux, j'étais un être à part, doté d'aptitudes qui les dépassaient. Du coup, j'avais souvent l'impression d'être une sorte de talisman, conçu pour chasser loin d'eux les mauvais esprits. Avoir une sorcière parmi eux était pour ces braves gens une sorte d'assurance, l'équivalent des prières qu'ils adressaient aux esprits du bien quand quelque chose n'allait pas dans leur vie. Mais ce qui se passait au sud n'avait rien de surnaturel, ce qui ne les empêcha pas de venir me demander de l'aide. Qu'aurais-je pu faire? Contrairement à ce que croient les profanes, la magie ne résout pas tous les problèmes, bien loin de là. M'avouant dépassé, je suis venu à la forteresse afin de consulter le conseil. Comme tu t'en doutes, on me fit savoir que les inquiétudes des gens de Grandengart seraient prises en compte et analysées au même titre que tous les rapports que les conseillers recevaient sur ce sujet. Selon ces honorables sages, tout finirait par s'arranger et le commerce ne tarderait pas à reprendre. L'un d'eux suggéra même qu'un pont inondé était peut-être l'explication de cette interruption momentanée des échanges commerciaux. D'après ce que disaient les réfugiés, cependant, il y avait un nouveau dirigeant dans l'ancien monde et ses troupes étaient la cause des problèmes. Estimant que le régime précédent n'était pas assez centralisé et du coup trop souvent inefficace, les conseillers assurèrent qu'un bouleversement politique chez nos lointains voisins n'était pas une mauvaise chose. Malgré tout, on me promit d'envoyer un détachement enquêter sur la question lorsque des troupes redeviendraient disponibles. Ne sachant pas quand ça arriverait, je décidai de m'en retourner là où on avait besoin de mon aide et de mes conseils. Je revins chez moi le lendemain du jour où le général Kuno et ses hommes, violant la frontière, avaient déferlé sur Grandengart. En d'autres termes, 24 heures après le début de la guerre. « Le général Kuno ?» souffla Magda laissant glacer. « Le bras droit de l'empereur ?»«
Oui. » »«
C'est Sulakhan lui-même qui lui a ordonné d'envahir ma ville. » Selon Barakus, Kuno était un boucher qui semait la terreur sur son passage. Désireux d'unifier le monde, comme il disait, l'empereur Soulacane voulait en réalité le placer sous un seul pouvoir, le sien. À cette fin, il avait attaqué le nouveau monde sans déclaration de guerre, et la ville d'Isadora semblait avoir été la première victime de cette félonie. Le général força tout le monde à se réunir sur la place principale de la cité. Dans un discours enflammé, il annonça qu'une ère nouvelle venait de commencer. Le monde allait changer radicalement, et les citadins de Grandonkart avaient l'honneur d'être les premiers à pouvoir se rallier à l'empereur Soulacane et à la cause sacrée de l'ancien monde. Bien entendu, dit-il aux hommes, ils étaient libres de choisir, au nom de leur famille, de rester loyaux au nouveau monde. Pour simplifier la procédure, il demanda qu'on vote à main levée. « Ne perds pas de vue, Magda, que nous n'étions pas encore en guerre. Chez moi, nul ne se doutait que se rallier à l'empereur était la pire trahison possible. Ce jour-là, tout a changé en quelques heures, mais personne n'en avait encore conscience. » Les soldats de Kuno observèrent le vote, puis ils séparèrent en deux les citadins de Grandonkart. Les nouveaux sujets de l'empereur furent poussés d'un côté de la place, et ceux qui étaient restés fidèles au nouveau monde durent se masser en face. À cet instant, les gens commencèrent à paniquer, mais les soldats interdirent toute fuite et gardèrent les deux groupes sous la menace de leurs armes. Pour casser le moral des prisonniers, ces brutes taillèrent en pièces plusieurs récalcitrants devant les yeux de leurs femmes et de leurs enfants. Puis ils ordonnèrent aux loyalistes du Nouveau Monde de creuser des trous sur le bas-côté de la route principale. Ensuite, ils les forcèrent à planter dans ces trous les rondins qui attendaient toujours en vain d'être transportés. Alors que leurs amis et voisins criaient d'horreur, presque tous les hommes qui avaient voté contre Soulacane furent suspendus par les poignets à ces poteaux de torture. Des femmes et des enfants subirent le même sort, seuls quelques vieillards ayant le privilège d'assister à la suite des événements. Comme si c'était un jeu, les soldats de Kuno remontèrent la route pour égorger ou éviscérer les malheureux suspendus par les poignets. Jugeant que leurs victimes mourraient trop vite, ces assassins commencèrent à les frapper dans les jambes ou au bas-ventre afin qu'elles agonisent lentement au soleil. Après avoir assisté au supplice de leurs amis et de leurs proches, les nouveaux sujets de l'empereur Soulacane, réduits en esclavage sur ordre de leur maître, furent déportés dans le sud. Les vieillards obligés d'assister au massacre eurent la vie sauve. De la clémence? Non. Un calcul efficace. Fuyant ma ville, ils racontèrent ce qu'ils avaient vu dans toute la région, facilitant ainsi le travail au général Kuno, qui trouva sur son chemin des foules prêtes à se prosterner devant le glorieux empereur Soulacane. Quand je suis arrivé le lendemain, la route qui traverse la ville était bordée des deux côtés d'une haie de poteaux de torture. Plus de 1 500 citadins, hommes, femmes et enfants mêlés, avaient subi un sort qu'on hésiterait à infliger à des animaux. Parmi ces suppliciés, beaucoup agonisaient encore, seuls au monde dans leur terreur, mais assez près de leurs voisins, de leurs amis ou de leurs parents pour savoir qu'ils subissaient le même sort. Voyant leurs enfants hurler de douleur et d'angoisse, des mères accusaient leurs maris d'avoir provoqué leur malheur en votant pour le nouveau monde. Accablés, ces hommes finissaient leur vie en entendant leurs femmes les insulter et leurs enfants les supplier de venir à leur aide. Avant de partir, les hommes de Kuno avaient incendié la ville, ne laissant pas un bâtiment debout. Affamés, des chiens domestiques, vite rejoints par des coyotes, s'attaquaient aux suppliciés, leur arrachant de gros lambeaux de chair. Pour les chasser et faire fuir aussi les charognards ailés, je dus envoyer des éclairs, des lances de feu et des points d'air. Sous un soleil éclatant, les côtes à nu des cadavres et des agonisants semblaient d'une blancheur d'albâtre comparée à la bouillie rouge de leur chair et de leurs organes. Par bonheur, presque toutes les victimes des chiens, des coyotes et des vautours étaient mortes. Avec le sang, les fluides vitaux et les déjections des malheureux qui avaient perdu le contrôle de leurs fonctions corporelles, la puanteur était insoutenable. Mais un bon quart de ces pauvres gens, tu m'entends, Magda, un bon quart, étaient encore en vie. Pas vraiment conscients pour la plupart, mais encore capables de gémir, de pleurer ou même d'implorer de l'aide. J'ai remonté cette route de l'horreur sous le regard plein d'espoir de certains survivants, persuadés que leur dévouée magicienne allait les tirer de là. Alors que des appels à l'aide montaient de toutes parts, les vautours et les corbeaux perchés sur les rondins me regardaient passer, attendant mon départ pour recommencer à se repaître de chair fraîche. Certains crièrent afin de me faire fuir, comme s'ils estimaient avoir le droit de profiter en toute quiétude de cette aubaine. Isadora détourna la tête comme si ses yeux absents contemplaient un endroit qu'elle était seule à connaître. « Qu'as-tu fait pour les survivants ?» demanda Magda. « Était-il encore possible de les secourir ? Avec le don, peut-être ?» Isadora resta un long moment immobile et silencieuse, comme si elle revivait cette horreur seconde après seconde. Il n'y avait plus rien à faire. Les survivants m'imploraient de mettre un terme à leur douleur, et il n'y avait qu'une façon d'y parvenir, les achever. Tu n'en as guéri aucun? Même des sorciers bien plus doués que moi n'auraient rien pu faire. À part un miraculé, pas un de ces malheureux n'était susceptible d'être sauvé. Il n'y avait rien à faire, rien. Tu n'as pas tenté quelque chose?
Si.
Je les ai aidés à mourir plus vite, afin que leur âme parte le plus tôt possible vers le monde des esprits. En remontant la rue, j'ai d'abord utilisé mon pouvoir pour couper les cordes qui retenaient les suppliciés. Quand on est suspendu comme ça, la respiration devient difficile et beaucoup de gens étaient morts étouffés. En retombant sur le sol, une grande partie des survivants sombrèrent dans un coma miséricordieux. Ensuite, je me suis agenouillé à côté de tous ceux qui gardaient un semblant de conscience, leur murmurant à tous des paroles de réconfort, comme si à de telles extrémités de l'horreur, la promesse d'une mort rapide et douce pouvait être une consolation. Qui sait si ce n'est pas le cas? Comme étrangère à mon propre corps, je me voyais passer d'un moribond à l'autre, offrant à chacun un peu de compassion, puis faire en sorte que son cœur cesse de battre. Quand on fait des choses pareilles, Magda, on n'arrive pas vraiment à y croire. Dans ce cauchemar éveillé, le pouvoir que j'étais censé mettre au service des gens m'a permis de les tuer les uns après les autres. Mais je n'avais pas le choix. Ayant la vocation d'aider les autres, et tant pis s'ils ne prenaient presque jamais le temps de m'en remercier, je me devais de continuer. Et cette fois, alors que je semais la mort parmi eux, ces gens pleuraient de joie quand ils me voyaient approcher. Ils m'étaient reconnaissants, Magda, pour la première et la dernière fois.
Le souffle court, Isadora acheva son récit.
Avec ma magie, j'ai forcé des centaines de cœurs à ne plus battre. Je crois qu'il y en a eu plus de 400. Alors que la nuit était tombée depuis longtemps, j'ai enfin terminé. En tout cas, cette partie-là de ma mission. Car si tous les gémissements s'étaient tus, un cœur battait encore, et j'étais sur le point de le découvrir.